Chapitre 3e. 10 ans avaient passé sur les événements que nous venons de décrire. On était arrivé à l'année 1792. Les fureurs de la fange du peuple commençaient à ne plus connaître de bornes. Depuis la prise de la Bastille, l'incendie, le meurtre désolaient les campagnes. Les châteaux, les monuments des siècles passés disparaissaient sous la hache ou le brandon. Des hordes hideuses parcouraient les bourgs et les villages, ravageant sur leur passage tout ce qui rappelait les vieilles coutumes, les grandes œuvres enfantées par la féodalité. On eût dit qu'en tombant, la redoutable forteresse avait levé les dernières écluses, qui à grand-peine déjà retenaient le débordement des passions féroces, et que chacune de ces pierres, jetée par une main maudite au milieu d'un étang fangeux, en avait fait surgir des reptiles dévorants, des monstres inconnus jusqu'alors. Les seigneurs, fuyant leur demeure, se cachaient dans les quartiers les plus obscurs des villes, ou cherchaient à gagner les frontières pour échapper à une mort certaine. La France sentait le feu l'envahir peu à peu. Bientôt, elle ne devait plus être qu'un vaste brasier. Le château royal de Rambouillet, que nous avons laissé si brillant, si animé, aujourd'hui morne, silencieux, avec ses grilles enlevées, ses plombs arrachés et ses vitres brisées, ne semblait plus que le squelette de ses pompes évanouies. À la place des nobles hôtes qui le remplissaient naguère, des bandits, ivres de sang et de pillage, trônaient sur les meubles souillés et le verre en main portaient des toasts immondes. La fraternité commençait à naître. À la vue de tant d'horreur et de désordre, tous les cœurs honnêtes gémissaient dans le mystère et prévoyaient le sort qui attendait la monarchie. Au nombre de ces cœurs affligés, se trouvaient au premier rang les habitants de la Tour Aubel. Attachée par le principe et par reconnaissance à la maison royale, la famille de Germain mettait son point d'honneur à proclamer ses sentiments pour elle. « Je leur dois tout », disait fièrement le garde, quand ceux de ses camarades, devenus constitutionnels, l'engageaient à proclamer les droits de l'homme. Simone, elle, se contentait de montrer son fils. Mais le plus fougueux, le plus ardent des royalistes de la tour était ce fils que l'influence de sa puissante marraine avait, disait-on, conservé à l'amour de ses parents. À l'heure où nous parlons, le jeune Antoine Germain venait d'atteindre sa 10e année. C'était un beau et robuste garçon, à la chevelure blonde et bouclée, aux yeux bleus et limpides, rose comme une fraise des bois et comme son père, vaillant et courageux. Mais ce qu'Antoine avait de plus que son père, c'était le savoir dans la savantise et la connaissance des choses de science, comme on disait dans le pays. En accordant au fils du garde la haute fortune de devenir sa marraine, la reine n'avait pas voulu ne lui donner que son nom. Dès que l'enfant fut en âge de s'instruire, Sa Majesté annonça qu'elle se chargeait de pourvoir à tous les frais de son éducation, laquelle devait commencer chez le curé, dont l'art d'expliquer les rêves lui avait valu tant d'honneur. Antoine ne s'était pas montré hostile aux volontés de son auguste protectrice. Apprendre paraissait chez lui une passion instinctive. Aussi, à peine avait-il ses 6 ans accomplis, que déjà l'écorce des plus beaux arbres des environs portait, gravée par l'enfant, les noms bénis de Marie-Antoinette. Antoine connaissait la reine, et malgré son jeune âge, la vue de sa royale marraine avait fait sur son esprit une impression ineffaçable. Mandé au château de Rambouillet chaque fois que la cour y venait, il eût risqué sa vie pour payer une de ses visites. Là, tout semblait le charmer, l'enthousiasmer, le luxe, la grandeur, la richesse. Il n'était pas jusqu'à l'élégance et la grâce des femmes qui ne fût un objet d'admiration pour le petit paysan. Dans l'intimité de la reine, on plaisantait, on riait de ses admirations précoces. « À 20 ans, celle qu'il aimera sera bien aimée, » disait Sa Majesté. « Oui, mais ces débuts l'auront rendu difficile, ma commère, » répliquait en souriant le comte d'Artois. Quand, le soir, Antoine retournait chez ses parents, ce n'était de sa part que récit des grandeurs royales, de la magnificence de la reine, du brillant costume de ses dames. « Que c'est beau là-bas, » disait-il avec un soupir. « Quand je serai grand, je dirai à mon parrain de me faire noble pour que je puisse épouser une dame belle comme ma marraine. » Ses discours attristaient Simone. « Quand Antoine aura 20 ans, il ne faudra plus l'envoyer au château, » disait-elle. « Il s'y affolerait de quelques grandes demoiselles, et nous le verrions encore mourir comme ses frères. » Si nous nous sommes autant étendus sur les premières impressions d'un enfant, c'est qu'elles feront comprendre les passions ardentes qui, plus tard, vinrent maîtriser ce cœur si facile à émouvoir, si prompt à aimer. Quand nous retrouvons les habitants de la Tour Rebel, leur nombre s'était accru de deux personnages nouveaux. L'un, déjà connu de nos lecteurs, était le curé, instituteur d'Antoine. Poursuivi comme les nobles et les riches, il avait été recueilli par les parents de son élève. « Restez chez nous, monsieur le curé, » avait dit Germain. « Les brigands ne viendront pas vous y chercher. » Et à partir de ce jour, Germain avait clos sa porte et placé en vue un canon de fusil à deux des meurtrières de la tour, dont lui et son fils eussent avec grande joie fait partir la détente. Le second des deux personnages est une petite fille de 6 ans au plus, que ses yeux bleus et sa blonde chevelure auraient pu faire prendre pour la sœur d'Antoine, si la blancheur uniforme de son teint, la délicate distinction de toute sa personne, n'eussent révélé une origine et une existence aristocratique. Il y avait un an, par une affreuse nuit d'orage, alors que le ciel déchaîné semblait vouloir, de sa terrible voix, couvrir les cris des démolisseurs, que la pluie tombait par torrents et que les daims effrayés bramaient sur leur retraite de feuillage, des coups redoublés, frappés à la porte de la tour, y apportèrent l'épouvante. « On vient m'arrêter, » dit le prêtre en pâlissant. « Courons, fusil !» s'écria Antoine. Et déjà l'impétueux enfant s'élançait vers le lieu où étaient les armes. « Il m'a semblé entendre les supplications d'une femme et les plaintes d'un enfant, » dit Germain. « Ouvrons alors, » répliqua Simone. « Je vais reconnaître l'ennemi, » reprit Germain. « Laissez-moi aller à votre place, père, » s'empressa de dire Antoine. « Je serai plutôt arrivé que vous. » Par l'ancien escalier de la tour, on montait, non sans difficulté, au sommet des ruines. C'était un endroit bien connu d'Antoine. L'enfant en avait fait son cabinet d'études. Là, n'ayant d'autre distraction que la vue du ciel et la cime des arbres, l'élève du curé songeait au malheur de ses nobles protecteurs, apprenait le catéchisme et lisait l'histoire de France. En moins de temps qu'il n'en a fallu pour écrire ces lignes, Antoine était monté et descendu de son observatoire. Sa figure animée, ses yeux brillants, annonçaient une découverte. « Ils sont 3 !» balbutia-t-il, car la rapidité de sa course lui avait presque ôté l'usage de la parole. « Un homme, une femme, une petite fille. J'ai vu sa robe blanche à la lueur des éclairs. » À peine Antoine avait-il prononcé ces mots que la porte hospitalière de la tour roulait sur ses gonds. Malgré le désordre que l'orage et une marche de nuit dans les bois avaient apporté sur le visage et dans les vêtements des étrangers, Germain, que sa profession de garde faisait souvent rencontrer avec les seigneurs du pays, eut bientôt reconnu dans ses nouveaux hôtes les maîtres d'un château des environs, le comte et la comtesse de Martigné. Surpris dans leur demeure, au milieu de la nuit, par les incendiaires organisés, M. de Martigné, sa femme et sa fille avaient, après des efforts surhumains et grâce aux ailes d'un domestique dévoué, échappé aux horreurs de l'assassinat. Sortis du château, dont les flammes jaillissantes éclairèrent longtemps leur périlleux voyage, l'orage les avait atteints au moment où ils étaient entrés dans la forêt. Le comte, heureusement, en connaissait les détours. « Pardonnez-moi d'avoir compté sur vous, Germain, » dit M. de Martigné, après avoir expliqué aux gardes le funeste motif de sa venue à la tour Rebel. « Mais ma femme, mon enfant, succombait sous la terreur et la fatigue. Votre bonne renommée a encouragé mon indiscrétion. » « Et je suis la preuve que la renommée n'a pas menti, » dit le prêtre. Pendant ce colloque, Simone, qui, pour exercer la charité chrétienne, n'avait pas besoin de connaître le rang des gens vers lesquels elle la pratiquait, avait allumé un grand feu, préparé des habits pour remplacer ceux trempés de pluie de la comtesse. Antoine s'était emparé de la petite Marie. Assis dans un coin du foyer, il s'occupait à lui sécher les pieds. L'orage se prolongea toute la nuit, retentissant comme le bruit d'une bataille que répétaient au loin les échos de la forêt. Malgré les éclats de la foudre, Madame de Martigné, faible, souffrante et épuisée par les émotions cruelles qu'elle venait d'éprouver, s'était étendue sur le lit de Simone, où elle avait cédé au sommeil. Marie dormait dans les bras d'Antoine. Les 3 hommes rangés autour du feu causaient à voix basse des malheurs du présent et des inquiétudes de l'avenir. Simone disait son chapelet. C'était vraiment un tableau digne du pinceau mystérieux de Rembrandt que cette chambre obscure de la tour, dont les personnages faiblement éclairés par les restes du feu qui avait brûlé dans l'âtre, apparaissaient tout à coup distincts et lumineux sous la lueur fine et passagère des éclairs venant du dehors. À l'aube, M. de Martigné réveilla sa femme pour lui faire ses adieux. Germain lui avait généreusement proposé de garder la comtesse et sa fille jusqu'à ce qu'un asile sûr leur eût été préparé. La sanglante révolution de 89 a enfanté des dévouements hors ligne dans toutes les classes de la société. À cette malheureuse époque, les femmes se sont montrées dignes d'être comparées aux hommes les plus intrépides et les plus audacieux. Le courage doublait leur force et leur faisait accomplir des prodiges. Madame de Martigné fut un de ces modèles. En entendant son mari lui annoncer son départ et la résolution prise de la laisser à la tour, elle se leva précipitamment et, oubliant ses fatigues, sa souffrance, déclara que nulle puissance humaine ne lui ferait abandonner son époux dans un pareil moment. On lui représenta les dangers qu'il y avait à courir en traversant un pays sillonné de bandes de pillards et de meurtriers. « Si mon mari doit périr, nous périrons ensemble, » s'écria-t-elle en l'enlaçant de ses bras. Ni prière ni supplique ne purent la faire renoncer à son projet. « Et votre enfant, madame ?» demanda le prêtre. « Allez-vous l'exposer au même péril que vous ?» Madame de Martigné jeta un coup d'œil rapide autour d'elle. Son regard rencontra celui de Simone. Les mères se comprirent sans parler. « Laissez-la nous, madame, » dit la paysanne avec une simplicité affectueuse, qui promettait plus que 20 phrases éloquentes. Madame de Martigné se jeta au cou de la femme du garde. « Je vous confie plus que ma vie, » dit-elle. « Je le sais bien, madame, » répondit Simone en regardant son fils. Sur le visage de ce dernier, deux larmes coulaient lentement. Il fut convenu que si les parents de la petite Marie pouvaient gagner Paris, où un semblant d'ordre régnait encore, leur premier soin serait de l'envoyer chercher par une personne de confiance. Ceci arrêté, on se prépara au départ. Le domestique, qui, pendant l'incendie du château de Martigné, avait facilité l'évasion de ses maîtres, s'était engagé à conduire dès le matin deux chevaux sur une des lisières du bois dont l'isolement offrait quelques chances de sécurité. Germain voulut accompagner ses hôtes jusqu'à l'endroit indiqué par le domestique. Sa connaissance parfaite de la forêt le rendait un guide précieux. Madame de Martigné portait les habits de Simone, le comte ceux de Germain. En cas de mauvaise rencontre, ils devaient passer pour des parents du garde. La comtesse avait désiré qu'on n'éveillât pas sa fille. Quoique leur séparation ne dût être que de peu de durée, la pauvre mère avait craint de voir faiblir son courage devant les larmes de son enfant. Ce fut un moment solennel que celui où les fugitifs quittèrent la tour. Tous deux s'agenouillèrent devant le prêtre, lui demandant de bénir leur voyage et d'appeler la bénédiction du ciel sur l'être si cher qu'ils laissaient derrière eux. Madame de Martigné, les yeux baignés de larmes, serrait les mains de Simone, puis, après avoir baisé 100 fois les cheveux de sa fille, que la femme du garde avait prise tout endormie des bras d'Antoine, elle s'élança violemment hors de la tour. Sur le seuil se trouvait Antoine, armé de pied en cap. « Père, je vais avec vous, » dit-il d'un air résolu. Germain le regarda avec un sourire d'orgueil. « Et si on attaque la tour pendant mon absence, » dit le garde, « qui y mettra le feu aux poudres ? Ils sont trois là-haut, qui n'en valent pas un, » ajouta-t-il avec un accent de compassion touchante. « C'est vrai, vous avez raison, père, » répondit Antoine. Et rentrant à la tour, il enferma la porte derrière lui, mais non cependant assez vite, pour ne pas entendre la mère de Marie lui crier de soigner et d'aimer sa fille comme si elle était sa sœur. « On n'avait pas besoin de me le dire, » murmura le jeune garçon en gravissant le vieil escalier qui conduisait aux décombres d'où il pouvait voir les trois voyageurs. « N'a-t-elle pas la moitié du nom de ma marraine et une figure aussi blanche que la sienne ?»